J'avais une discussion il y a quelques jours en arrière avec quelqu'un qui me disait que lorsqu'il était enfant, on lui demandait d'aller se confesser. Et quand il fallait se confesser, il se demandait ce qu'il fallait confesser. Confesser quoi? Alors, il inventait des histoires, il inventait des fautes qu'il avait faites pour avoir quelque chose à dire. Si bien que le seul péché qu'il avait fait, c'était celui de raconter des histoires qui n'étaient pas vraies et d'avoir inventé des péchés qui n'étaient pas vrais. Et on a développé cette idée que un péché, c'est une mauvaise action. Par conséquent, pas de mauvaise action, pas de péché, pas de problème. C'est aussi simple que ça. En réalité, le problème du péché est un problème bien plus profond qui va au fond de notre être. La parole de Dieu le dit d'ailleurs dans Jérémie au chapitre 17, il est dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, dit « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Le problème du péché, c'est donc beaucoup plus qu'une mauvaise action que l'on a faite. Le problème du péché va plus loin que les mauvaises actions, tout simplement. De cette manière-là, nos prières de confession ont été modifiées. Nos prières de confession ont été déformées à cause de cette idée que le péché, c'est simplement une mauvaise action. Ainsi, nous avons oublié nos mauvaises actions. Et par conséquent, nous avons oublié nos péchés. Et par conséquent, il nous est difficile de les confesser à Dieu. Nos prières de confession sont devenues finalement bien superficielles à cause de ce fait que nous ne voyons pas nécessairement au-delà des mauvaises actions pour comprendre ce qu'est le péché. Quand vous lisez dans votre Bible les prières de confession des serviteurs de Dieu d'autrefois, vous vous rendez compte qu'ils avaient une conscience beaucoup plus aiguisée que la nôtre pour comprendre à quel point le péché était au fond d'eux-mêmes. Dans leurs prières, ils donnent à Dieu tout ce qu'ils sentent être mal en eux et qui les sépare de Dieu. Ainsi, ce matin, j'aimerais reprendre deux prières qui sont dans les Écritures, la prière de Daniel dans son livre au chapitre 9 et la prière de David dans le psaume 32 pour trouver les différentes dimensions du péché et bien entendu, permettez que j'en trouve sept ce matin, les sept péchés que la Bible nous présente. Je vous propose d'avoir vos Bibles sur les genoux, nous allons lire un certain nombre de textes ensemble ce matin. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9, se trouve une très belle prière de confession. Daniel, dans l'attente de la libération de son peuple, prie Dieu. Et nous allons lire ensemble le début de cette prière qui se trouve dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9, à partir du verset 4. Daniel, chapitre 9, verset 4. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Permettez que nous arrêtions là dans la lecture. Il y a déjà ici cinq mots importants que j'aimerais regarder avec vous, et qui montrent les différentes facettes du péché. Dès le verset 5, Daniel dit ceci, « Nous avons péché ». C'est le mot « hata ». Souvent dans nos traductions d'ailleurs, le terme qui est utilisé n'est pas nécessairement celui qui est employé toujours de la même manière. Mais il y a plusieurs dimensions. Dans ce mot se trouve l'idée de manquer le but, de ne pas arriver à. C'est la notion d'avoir failli, la notion d'échec. C'est l'expression de notre faiblesse, de ne pas avoir été capable de. Et c'est exactement le sens du mot péché que nous retrouvons d'ailleurs dans le Nouveau Testament, d'avoir manqué le but, d'avoir manqué l'objectif. J'aimerais prendre quelques exemples ailleurs dans les Écritures pour illustrer le sens de ce mot-là. Regardez par exemple avec moi dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, nous lirons le verset 13. Dans ce chapitre, nous retrouvons David, le roi David, confronté par le prophète Nathan à cause des multiples péchés qu'il avait commis, vous vous en souvenez, à propos de Bathsheba. Et lorsque Nathan le confronte avec son histoire de la petite chèvre, David reconnaît. Et il est écrit dans 2 Samuel chapitre 12 au verset 13, « David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » On se souvient de tout ce que David avait commis comme faute grave et qu'il avait rendu coupable aux yeux de Dieu. Il reconnaît, il dit « J'ai péché ». Et c'est le même mot qui est employé dans ce texte-ci. Le texte de la Genèse au chapitre 4 emploie encore le même mot dans un contexte bien différent. Genèse chapitre 4, où il est parlé ici de Caïn. Après qu'il ait tué son frère, Dieu lui parle. Dans Genèse chapitre 4, au verset 7, se trouve l'endroit où, pour la première fois dans les Écritures, le mot « péché » est employé. Il est écrit ceci. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Le péché se couche à ta porte. C'est le même mot qui est employé ici. Et vous vous souvenez de ce que Caïn avait fait. Il avait tué son frère. Manquer le but, l'échec. Alors je me pose la question aujourd'hui et je vous la pose. Qu'en est-il de nos échecs? Toutes les fois où nous avons manqué l'objectif, toutes les fois où nous n'avons pas atteint le but que le Seigneur nous avait donné, est-ce que nous sentons le besoin de le présenter aussi à Dieu pour qu'il nous pardonne nos échecs, qu'il pardonne ces objectifs que nous n'avons pas atteints? Ils sont aussi le péché pour lequel le Seigneur veut nous pardonner, nos faiblesses de ne pas avoir atteint l'objectif. Je reviens dans notre prière de Daniel au chapitre 9 de son livre et au verset 5. Après avoir dit « Nous avons péché », il continue en disant « Nous avons commis l'iniquité ». C'est le mot « avon », l'iniquité, qui a plusieurs sens. Avon, c'est ce qui n'est pas droit, c'est ce qui est tordu, c'est ce qui est pervers, c'est le crime, c'est ce qui demande et qui exige l'expiation. Et j'aimerais prendre encore quelques exemples pour illustrer l'utilisation de ce mot-là. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 44, verset 16, se trouve une illustration intéressante de l'utilisation de ce mot. Genèse, chapitre 44. Les frères de Joseph, dans ce chapitre, ont retrouvé Joseph, mais ne l'ont pas reconnu. Il est lui maintenant premier ministre d'Égypte. Et vous vous souvenez comment Joseph va tenter ses frères, les mettre à l'épreuve. Et ici, Joseph avait demandé que sa coupe soit mise dans le sac de Benjamin. Vous vous en souvenez. Et puis finalement, il les fait prendre. Et nous trouvons dans Genèse chapitre 44 au verset 16 la réaction de Judas, l'un des frères, qui dit « Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parlerons-nous, comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Judas réagit et dit, « Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » Et vous vous souvenez ce que les frères de Joseph avaient fait comme action vraiment tordue, de vendre leurs frères, de mettre du sang sur ses vêtements, de les apporter au père pour faire croire que, toute une magouille. C'est le sens de ce mot-là, que l'on retrouve d'ailleurs dans le même livre de la Genèse un petit peu plus tôt, au chapitre 15. Genèse, chapitre 15, verset 15. « Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » C'est le même mot qui est employé ici, pour dénoter quelque chose de tordu, de pervers. Autrement dit, leur perversité n'est pas encore à son comble pour le moment. Alors, je me pose la question, nos cœurs tortueux et leurs actions tordues, nos cœurs tortueux et leurs projets tortueux, les avons-nous présentés à Dieu comme aussi des péchés à pardonner, nos magouilles, nos politiques, nos stratégies, que ce soit dans les affaires ou que ce soit dans l'Église, avons-nous pensé quels sont aussi le péché que nous devons présenter au Seigneur pour qu'il les pardonne? En revenant dans le livre du prophète Daniel au chapitre 9, dans la prière auquel nous avons fait allusion, dans le même chapitre 9, verset 5, Daniel dit « Nous avons été méchants ». Nous avons été méchants, c'est le mot « rachat ». Nous avons été méchants. Et c'est exactement le sens de ce mot. C'est vouloir faire du mal, chercher à faire du mal, avoir le désir de mal faire envers quelqu'un. Et là encore, j'aimerais lire avec vous quelques textes intéressants où ce même mot est employé, mais traduit différemment dans nos versions françaises. Regardez avec moi, par exemple, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. Deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. Il est question ici du roi Josaphat, qui s'était fait remarquer, d'ailleurs, par sa foi. Lorsque, attaqué par ses ennemis, il avait été consulter Dieu pour savoir comment faire. Mais un peu plus loin, dans ce même chapitre 20, au verset 35, il est dit ceci. Deux Chroniques, chapitre 20, verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akasia, dont la conduite était impie. C'est le même mot qui est employé, méchant. Un autre passage est intéressant dans le premier livre de Samuel, au chapitre 14. Premier livre de Samuel, au chapitre 14. L'utilisation de ce mot nous permet de comprendre dans quel sens le texte veut nous faire comprendre les actions de Saül. Il est ici question du premier roi d'Israël, et il est dit dans le premier livre de Samuel au chapitre 14 et au verset 47, « Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. » Et le mot « vainqueur » ici traduit le même mot, « rachat ». Il était méchant. Partout où il se tournait, il était méchant. Et cela nous montre dans quel sens il était vainqueur. Il était vainqueur par la méchanceté, par la cruauté avec laquelle il faisait sa guerre. Un texte intéressant qui nous montre les différents sens de ce mot dans la parole de Dieu. Mais encore, je me pose la question et je vous la pose. Qu'en est-il de nos méchancetés? Lorsque nous avons réussi en étant méchants, en ayant voulu faire du mal, lorsque nous avons réussi dans nos entreprises, est-ce que nous avons présenté cela à Dieu comme étant des péchés qui ont aussi besoin d'être pardonnés? Je reviens dans la prière de Daniel, dans son livre au chapitre 9, toujours au verset 5, il dit « Nous avons été méchants et nous avons été rebelles ». C'est le mot « marade ». Nous avons été rebelles. C'est le sens, effectivement, de ce mot. Rébellion, insoumission, esprit de révolte. Et j'aimerais encore lire quelques passages pour montrer de quelle manière ce mot est utilisé dans les Écritures. Par exemple, dans le livre de Job, au chapitre 24. Dans le livre de Job, au chapitre 24, nous lirons le verset 13. Il est là question de plusieurs personnes qui font le mal, et la manière dont Job présente ces gens est intéressante. Job, chapitre 24, verset 13, dit « D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. » Le mot « marade » a ici été traduit par « ennemi ». Ils sont ennemis de la lumière, ils sont révoltés contre la lumière. Ils sont rebelles. Ils ont cette volonté de lui résister et d'empêcher d'influencer leur vie. Dans le livre du prophète Daniel, justement, et dans la prière que nous regardons ce matin, il y a une explication sur cet esprit de révolte. Revenez, si vous le voulez, dans Daniel au chapitre 9, un petit peu plus bas dans le texte, au verset 9. La même expression est employée. Il est dit, Daniel, chapitre 9, verset 9, « Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. » Comment est-ce que cette révolte, cet esprit d'insoumission se manifeste? En n'écoutant pas la parole de Dieu. Dieu nous parle par ses prophètes. Dieu met devant nous sa loi, son programme de vie pour nous. Et par rébellion, par esprit d'insoumission, nous ne l'écoutons pas. C'est ce que Jésus disait d'ailleurs aux gens de son temps. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ce même esprit. Dieu parle, je sais, mais je n'en veux pas. Alors je me pose la question, qu'en est-il de nos rébellions? Les avons-nous données aussi au Seigneur? Lorsque nous n'avons pas écouté, lorsque nous avons préféré faire nos propres choix, selon nos propres critères, sans tenir compte de ceux de Dieu, parce qu'ils nous conduisaient dans une autre direction, avons-nous présenté ces choses à Dieu pour qu'il les pardonne aussi? Lorsque nous sommes allés ailleurs que là où Dieu voulait nous voir aller, lorsque nous savons ce que Dieu demande et que nous ne l'avons pas fait, lorsque Dieu nous parle par sa parole ou l'esprit de prophétie et que nous n'écoutons pas, lui avons-nous demandé pardon pour ces rébellions-là aussi? Car ce sont des péchés pour lesquels nous avons besoin aussi du pardon de Dieu. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9, dans cette prière, il y a au verset 7, un autre terme qui est employé. Il est dit au verset 7, « À toi, Seigneur, la justice, à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. » Infidélité, c'est le mot « mahal ». Vraiment le sens d'infidèle, avec cette nuance de tricherie, de tromper, d'être déloyal. Et ce mot est employé dans d'autres passages que j'aimerais regarder aussi avec vous. Dans Josué, par exemple, au chapitre 22. Et le contexte qui est associé à l'utilisation de ce mot est intéressant par rapport au sens qu'il peut avoir. Josué, chapitre 22, nous lirons le verset 20. Acan, fils de Zérakh, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Vous vous souvenez du péché d'Acan, qui, lorsque tout avait été dévoué par interdit à Jéricho, avait pris pour lui des vêtements particuliers, qu'il les avait cachés, et qu'il avait ainsi conduit tout Israël vers l'échec dans sa tentative de conquérir Haï, une petite bourgade derrière Jéricho. Le mot « infidélité » est de nouveau employé dans ce texte, vraiment dans le sens de tricherie. Vous vous souvenez de Acan, le tricheur, le déloyal. C'est dans ce sens que le mot est ici employé. Un autre passage dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 10 et au verset 13, utilise ce même mot. Premier livre des Chroniques, chapitre 10, au verset 13, il est parlé ici de nouveau du roi Saül. Premier livre des Chroniques, chapitre 10, le verset 13. Il est écrit ceci. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Pourquoi donc la royauté a-t-elle été enlevée à Saül? Pourquoi donc est-il mort? À cause de l'infidélité envers l'Éternel. Parce qu'il n'a pas écouté la parole de Dieu, parce qu'il a été consulté les morts, pensait-il. Infidélité. En réalité, ici, il y a encore ce mot avec le sens de tricherie, de déloyal envers Dieu. Et là encore, je me pose la question par rapport aux comportements déloyaux que nous avons eus envers Dieu. Nous avons accepté de faire alliance avec lui. Nous avons accepté par conséquent un pacte qui va dans les deux sens et qui demande fidélité des deux parties. Qu'en est-il de toutes ces fois où nous n'avons pas été fidèles dans notre alliance avec Dieu? Qu'en est-il de toutes les fois où en réalité nous avons mis quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre à la place de Dieu dans notre existence et nous avons été déloyales envers lui, que nous avons reconnu dans notre alliance comme étant notre seul Dieu et notre seul Sauveur? Qu'en est-il de ces tricheries? Les avons-nous données aussi au Seigneur pour qu'il les pardonne? J'aimerais maintenant me tourner avec vous dans le livre des psaumes où se trouve une autre prière. Dans le livre des psaumes, dans le psaume 32, se trouve une très belle prière de David. Une prière de confession aussi. Et j'aimerais prendre deux mots dans le début de ce chapitre qui sont aussi des facettes différentes du péché. Dans le livre des psaumes, au psaume 32, j'aimerais lire avec vous les deux premiers versets. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Vous retrouvez ici des mots que nous avons déjà vus tout à l'heure dans le livre du prophète Daniel. Mais il est dit au verset 1, heureux celui à qui la transgression est remise. C'est le mot pécha, la transgression. C'est véritablement la désobéissance, le crime, l'offense faite à Dieu. Prenons un exemple, voulez-vous, dans le livre des Proverbes, au chapitre 19. Le verset 11 emploie le même mot, mais traduit différemment. Proverbes, chapitre 19, verset 11. Il est écrit ceci. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est le sens de ce mot-là. Un autre exemple, nous le trouvons dans le livre du prophète Ézéchiel, avec un contexte qui qualifie ce mot-là d'une façon très pertinente. Ézéchiel, chapitre 18, nous lirons le verset 31. Il est écrit ceci. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. » Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le mot transgression ici, c'est ce mot pécha, désobéissance, offense. Et dans ce contexte du chapitre 18 d'Ézéchiel, une invitation est apportée. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Déjà dans ce texte, Dieu fait comprendre que ce n'est pas simplement une action, une mauvaise action qu'il suffit d'éliminer ou d'oublier ou même de confesser. Le problème est bien plus profond, c'est dans le cœur, dans l'état d'esprit. Ce qu'il faut, dit ce texte, c'est une conversion, un changement de direction, un changement en profondeur, autrement dit. Alors, je me pose encore la question et je me demande, mais toutes ces offenses que nous avons faites à Dieu, ces désobéissances qui ont parsemé notre chemin, est-ce que nous les lui avons apportées? Est-ce que nous les avons présentées pour qu'il les pardonne aussi, comme des péchés qui ont besoin d'être effacés? Dans le livre des psaumes, au chapitre 32, où nous étions tout à l'heure, il y a dans le verset 2, un autre mot que j'aimerais regarder avec vous en terminant. Psaume 32, il est dit au verset 2, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » C'est le mot « rémia », la fraude, c'est la négligence, c'est la mollesse, c'est la paresse. Et permettez que nous regardions un ou deux textes encore qui illustrent le sens de cet aspect du péché. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 48 et au verset 10, ce même mot est employé encore. Jérémie, chapitre 48, le verset 10, dit ceci. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Négligence. Voyez à quel point c'est un péché grave. Il y a là une malédiction. Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est le sens de ce mot, rémia, mollesse. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, nous retrouvons ce même mot, traduit ici d'une façon différente. Proverbes, chapitre 19, verset 15, dit ceci. « La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. » La paresse est la façon dont le texte traduit ici le même mot, la nonchalance, la négligence, la mollesse. Alors je pense qu'en réalité, c'est exactement ce que Jésus reproche à l'église de Laodicée, sa tiédeur. C'est exactement ce que Jésus reproche à l'église des derniers temps. Alors, nos tiédeurs, est-ce que nous les lui avons apportées comme des péchés qu'il faut aussi pardonner? Toutes les fois où nous nous sommes esquivés devant le service qu'il nous proposait, toutes les fois où nous n'avons pas réagi lorsqu'il nous appelle, toutes les fois où nous sommes passés à côté de l'engagement pour la mission qu'il nous avait présentée. Est-ce que nous lui avons présenté ces choses comme des péchés à pardonner? 7 péchés présentés dans les Écritures, 7 aspects différents du péché présentés par David et par Daniel comme étant des péchés pour lesquels nous avons besoin du pardon de Dieu. C'est dire à quel point nous sommes beaucoup plus loin là que simplement des actions, des mauvaises actions, un mensonge ou un vol simplement. Le problème est plus profond en chacun d'entre nous. Le problème du péché est en rapport avec notre nature. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à nous présenter à lui avec tout ce que nous sommes, à lui présenter tout ce que nous avons et qui est une entrave à un contact en profondeur avec lui. C'est la raison pour laquelle, dans la parole de Dieu, nous sommes invités à prendre un remède radical. Regardez un passage dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36, où déjà dans l'Ancien Testament, Dieu propose ce remède radical au problème du péché. Ézéchiel chapitre 36, au verset 26, il est écrit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour pouvoir arriver à ce résultat, il faut un cœur nouveau. Pas simplement la confession d'une mauvaise action par-ci, par-là dans notre existence. Il faut véritablement un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est dire à quel point ce que disait Jérémie tout à l'heure dans le texte auquel nous faisions allusion, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, est une réalité à laquelle nous sommes tous inévitablement confrontés dans notre quotidien. Au-delà de nos actions, il y a tous ces aspects du péché que nous retrouvons constamment dans notre vie et pour lesquels nous avons besoin d'un remède. Il y a dans le Nouveau Testament cette parole extraordinaire écrite par l'apôtre Jean dans sa première épître. Première épître de Jean, chapitre 1er, au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Une promesse fantastique, où il nous est dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tous les aspects de notre vie de péché, nous pouvons les lui présenter parce qu'il est en mesure de les effacer et de les pardonner. Autrement dit, l'étendue du sacrifice de Jésus couvre largement tous les aspects les plus tortueux de notre péché dans notre vie. nous avons l'impression, en regardant à nous-mêmes, que notre situation est sans remède. Et c'est vrai. Tant notre vie entière est contaminée par différents aspects de ce péché, mais l'étendue du sacrifice de Jésus est si grande que nous pouvons être couverts par son manteau de justice. Et c'est effectivement le sens de ce passage que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, où nous retrouvons là cette image très belle du manteau de la justice que Christ veut nous donner. Ésaïe chapitre 61, au verset 10, il est écrit ceci. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Dans certaines versions, vous avez « Il m'a couvert du manteau de la délivrance ». Ainsi, Christ, notre justice, nous offre ce manteau de la délivrance, de sa propre justice à lui, pour que nous soyons couverts dans tous les aspects les plus tortueux de notre péché. Alors que nous voulons nous préparer pour le retour de Jésus, nous sommes invités à lui donner tout ce mal qui est en nous, à ne pas craindre qu'il y ait un aspect de notre vie pour lequel il ne puisse apporter un remède et une guérison. Dans le livre de l'Apocalypse, d'autres images sont employées pour cela. Je vous propose de lire avec moi dans Apocalypse au chapitre 7, ce qui se trouve à partir du verset 13. Apocalypse chapitre 7, verset 13, il est écrit ceci. « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Il me dit, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Ce sont ceux qui ont lavé leurs robes. Il n'y a qu'un seul moyen de laver sa robe, c'est de demander au Christ de le faire grâce au mérite de son sacrifice offert à chacun d'entre nous. Il y a un seul remède pour laver nos robes et les rendre blanches. C'est le sacrifice de Jésus, dont l'étendue est si large, si grande, qu'il n'y a pas un péché dans tous ses aspects qui puisse être hors de son atteinte pour qu'il le pardonne, qu'il nous en purifie et qu'il nous en guérisse. Finalement, c'est cela, recevoir le manteau de la justice du Christ. Que le Seigneur nous l'accorde à chacun. Amen.